Tanguy, de quoi vas-tu parler?
Coucou, je veux parler de moi, mais aussi des Whittaker, la famille la plus consanguine des États-Unis. Alors, a priori, pas trop de rapport, mais enfin, faut que j'appelle mes parents quand même.
Très bien, ça sera après les infos de midi.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie avec AG2R La Mondiale. Constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perdre ton capital. On en parle.
La filière bovine s'engage à vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle dans un instant avec Thomas Kos, boucher à Paris.
France Inter,
première radio de France.
Vous êtes bien sur Inter, la preuve, il est 12h01. Laetitia Gaillet pour vous informer.
J'ai décidé de continuer Pedro Sanchez envers et contre tout. Bonjour Frédéric Saïs.
Bonjour.
Frédéric Saïs de la rédaction internationale de Radio France. Alors est-ce que cela marque la fin de la crise politique en Espagne? En tout cas, malgré la campagne de discrédit, malgré l'ouverture d'une enquête contre son épouse pour trafic d'influence et corruption, le Premier ministre espagnol a donc annoncé tout à l'heure lors d'une allocution solennelle qu'il restait à la tête du gouvernement.
Oui, visage grave, ton solennel. Depuis le siège du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez met fin à 5 jours de silence, 5 jours durant lesquels ses partisans ont manifesté pour qu'il reste en dépit de cette enquête ouverte contre son épouse. Pedro Sanchez choisit donc de se maintenir à la tête du gouvernement espagnol.
Mon épouse et moi, nous savons que cette campagne de discrédit ne s'arrêtera pas. Nous en souffrons depuis 10 ans. C'est grave, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous sommes reconnaissants du plus profond de notre cœur pour les marques de soutien que nous avons reçues. Cette mobilisation a influé sur ma réflexion. J'ai décidé de continuer.
Mais cette allocution ressemble aussi à un cri d'alerte sur la santé de la démocratie espagnole. Pas uniquement à propos de cette enquête préliminaire lancée après une dénonciation par un groupe proche de l'extrême droite. Pedro Sanchez fait aussi allusion aux rumeurs relayées par les ultra-conservateurs selon lesquelles son épouse serait en réalité un homme. Si la liberté d'expression se confond avec la liberté de diffamation, alors tout cela ne vaut plus la peine, lance Pedro Sanchez, que l'on sent moitié abattu, moitié revigoré.
Merci Frédéric Saïs. C'est l'Elysée qui l'annonce. Xi Jinping viendra en visite d'État en France la semaine prochaine, 6 et 7 mai. Une visite pour parler de la guerre en Ukraine, de la situation au Proche-Orient, mais aussi des 60 ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Cette visite d'État passera par Paris, mais aussi par les Hautes-Pyrénées pour, dit-on, un détour personnel. Ça se passe au Caire. Aujourd'hui, une délégation du Hamas est en Égypte. Elle doit discuter de la proposition de trêve négociée entre Israël et l'Égypte. Trêve dans laquelle est mise en balance la libération d'otages dans la bande de Gaza. Dans le même temps, Anthony Blinken lui est arrivé en Arabie Saoudite. Le secrétaire d'État américain vient faire la promotion de cette trêve après près de 7 mois de guerre. Sur le terrain du conflit, la branche armée du Hamas revendique aujourd'hui des tirs de roquettes dans le sud du Liban sur une position militaire dans le nord d'Israël. En France, Gérard Depardieu est en garde à vue dans un commissariat parisien. L'acteur est entendu depuis 4 heures maintenant pour des soupçons d'agression sexuelle sur la période 2014-2021. Gérard Depardieu est déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle suite à la plainte de Charlotte Arnoux. Une nouvelle plainte a été déposée en février par une femme qui l'accuse d'agression sexuelle, cette fois sur un tournage dans le Maine-et-Loire en 2014. La plainte d'Hélène Darras a, elle, été classée pour prescription en décembre dernier. Il n'y aura pas de train entre Lyon et Givors, au moins jusqu'à mercredi. Conséquence de la coulée de boue hier soir au sud de Lyon, à Grigny-le-Sablon. Le train a déraillé partiellement, il n'y a pas eu de blessés graves en 24 heures. Il est tombé là-bas, 74 mm de pluie, le précédent record datait de 48 avec 56 mm. Il a donc plu dans le Rhône et l'on en voit les conséquences. Et c'est à chacun d'apprécier ou non aujourd'hui la pluie. Dans les Pyrénées-Orientales, après des mois de sécheresse, on en rêve, elle arrive enfin. Pour ceux qui sont dans le Vaucluse, en revanche, c'est plutôt ciel bas et gris. Un peu tristoun pour une période de vacances de Pâques. Illustration avec ce reportage sur le marché d'Ille-sur-la-Sorgue. Le reportage donc d'Alexandra Lagarde de France Bleu Vaucluse.
Entre les étals de marché, quelques courageux, capuches et doudounes en prime. Ulrich, le regard dans le vague, attend sous son parapluie. Ce Lyonnais était venu chercher le soleil vauclusien.
L'idée, c'est quand même qu'on parte plus tôt, parce qu'il fait vraiment un temps de chien, en fait, aujourd'hui.
Lui n'a pas prévu de raccourcir son séjour en Vaucluse. Alain préfère rire de ce mauvais temps.
Oui, c'est des menteurs ici, oui. Il fait toujours beau, et puis en fin de compte, on s'aperçoit que c'est moche, quoi. Il fait plus beau dans le Jura, hein.
Même état d'esprit pour Stéphanie, cette Alsacienne positive, et adapte aussi un petit peu son programme.
On a décidé de prendre le train pour aller à Marseille aussi. On va voir pour descendre un peu plus bas avec un peu de chance. Le soleil sera là.
De l'autre côté des étals, là, c'est un peu la soupe à la grimace. Gaëlle vend des bijoux, enfin quand le temps est un peu plus clément.
Pour vous donner une idée, un dimanche ensoleillé, il y a 2 semaines, j'ai fait presque 400 euros. Là, aujourd'hui, je suis à zéro.
Beaucoup de commerçants ne sont d'ailleurs pas venus. Eric, lui, a bravé la pluie pour vendre ses fruits et légumes. Il relativise, les pertes ne sont pas si importantes que ça.
Les produits sont de saison, ils sont agréables et goûteux. Donc les gens ont envie de manger des bonnes choses.
Et il va falloir prendre encore son mal en patience. Météo France prévoit de la pluie pour une bonne partie de la semaine en Vaucluse.
Dans la deuxième partie du 13-14 tout à l'heure, on s'arrêtera sur le coût caché des violences conjugales et sexuelles. Virginie Crécy en a fait un livre, Le prix des larmes. Elle sera l'invitée de Jérôme Cadet aux côtés de Laurence Renaud, qui elle est la directrice de communication de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire, et qui propose des comptes bancaires aux femmes victimes de violences conjugales. Vos questions et où ? Témoignage au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter et vous cliquez sur l'onglet Réagir. France Inter, 12h06.
Politica. Immigration.
Démocratie. Cette année, on vote pour les élections européennes. France Inter se mobilise dans nos émissions et sur le terrain. Quels sont les enjeux ? Que proposent les candidats ? On vous donne les clés pour comprendre.
Ce lundi, le 18-20 est à Madrid, l'Espagne parmi les pays les plus pro-européens, mais aux multiples identités fortes, l'Espagne aux avant-postes du changement climatique et à la pointe du féminisme.
Europe et Europe.
Europa.
France Inter, la radio des Européennes.
France Inter lance l'École des Odyssées, un grand concours national de création de podcasts en partenariat avec Belin Éducation.
Vous êtes professeur de CM2 ? Alors embarquez vos élèves dans un projet pédagogique et ludique avec l'École des Odyssées. Choisissez un personnage haut en couleur et fabriquez votre odyssée tout au long de l'année. La classe gagnante enregistrera son histoire dans les studios de France Inter.
Inscrivez-vous dès maintenant sur franceinter.fr.
En route, mauvaise troupe !
Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire.
Eh ben c'est la deuxième partie de la bande originale sur France Inter.
Oh, le ton de la maîtresse fâchée.
Là, elle est colère.
Elle est colère.
Quand tu parles du nez, elle est colère.
Ah, très. C'est à ça qu'on la reconnaît.
Ah, je la reconnais, là.
À 13h, la rédaction sera là pour vous informer. Okay. Et tout après-midi, Laetitia Gaillé, en pleine forme et souriante.
Bien d'accord.
Voilà, parlera avec le reste du corps, puisqu'elle sera à l'heure. À tout à l'heure, Laetitia Gaillé.
À toutes.
C'est la bande originale avec Lisa Delmoitier, Julien Santini, Tanguy Passereau, Daniel Morin, nos invités Anne Parillo et Laura Lone. Présente sur scène, donc toutes les deux au Théâtre Antoine à 19h. Je ne serais pas arrivé là, au féminin donc. 6 points de suspension, c'est Annie Cogent qui a eu la gentillesse de venir tout à l'heure avec nous, témoigner finalement de toutes ces rencontres, visiblement qui émanent simplement de la curiosité, de l'intelligence d'écouter, sans savoir ce qu'elle va avoir finalement d'intéressant. Et vous y avez mis cette intelligence de dire, on va choisir les témoignages que l'on a envie de porter, parce qu'il faut que ce soit finalement le plus diversifié possible. Toutes ne disent pas la même chose.
Le plus hétéroclite, ouais. C'est-à-dire que ça vienne de toutes parts, de toutes formes, de tous milieux sociaux, de toutes tranches, de tout genre. Non, pas forcément de tout genre d'ailleurs. Enfin, j'entends là par rapport au spectacle. Mais oui, c'était fondamental.
Est-ce que vous avez appris...
C'est complète assez bien.
Ouais, est-ce que vous avez appris des choses sur des personnalités justement que vous évoquez dans le spectacle? Est-ce qu'il y avait des choses qui vous ont surprise
Laura.
Moi, j'ai l'impression qu'on a quasiment tout appris. Enfin, c'est des femmes qu'on connaît de nom, c'est des personnalités très, très connues, mais on ne connaît pas leur histoire. Et c'est ça qui est très touchant, en fait. C'est qu'elles se livrent vraiment de façon très intime, et c'est très touchant de voir comment elles en sont arrivées, pour certaines, à devenir des militantes féministes, et comment s'est construit leur féminisme. C'est très...
Oui, parce que, par exemple, Laura incarne Marjane Satrapi, la réalisatrice de Persepolis, donc on comprend le parcours, et on comprend l'achèvement d'une œuvre artistique, comment elle est arrivée là, et de quelle... voilà, la façon organique.
Chaque fois que vous parlez, vous mettez vos mains sur le ventre comme si tout venait des tripes.
Ah ben oui, des entrailles.
Ouais, c'est ça.
Bah, tout réside là, en fait. C'est là le siège...
Le deuxième cerveau.
Émotionnel de... Voilà, il y a les HPE, mais il y a les HPE.
HPE, alors.
Ah ben, c'est le...
Au potentiel estomacal.
Oui.
Ça, je le savais.
Non, émotionnel. Le haut potentiel émotionnel.
Et estomacal.
Il est tout aussi fondamental que le... Enfin, même... Moi, je considérais presque plus. Mais...
Plus important. Vous jouez, vous interviewez l'une l'autre, vous interprétez vous-même, et puis aussi, vous dansez. Et la choré de Chris, c'est pas rien. Ça, c'est Anne Bouvier qui a eu l'idée, comment c'est passé à raconter
Oui, c'est Anne Bouvier.
Parce que c'est bien, vous êtes bien synchro, hein, toutes les deux. On sent que vous avez bossé.
Oui, c'est Anne Bouvier. On a un moment où on... partage le témoignage de Christine and the Queens, qui est Redcar aujourd'hui, je pense.
Non, qui a été Chris, puis Redcar, puis redevenu Chris.
Voilà.
Et j'ai plus de...
Enfin, tout ça est développé, en tout cas, dans la pièce. Et donc, oui, il y a eu cette idée d'avoir un petit morceau de chorégraphie à la Christine and the Queens, qu'on ne fait pas, évidemment pas aussi bien qu'elle, mais en tout cas, on a essayé d'y mettre toute notre énergie.
Oui, elle est passée au stade où il veut qu'on parle de lui au masculin.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au moment de l'interview, c'était pas encore le cas, c'est pour ça que dans la pièce, on est encore sur elle. Mais depuis, effectivement, il y a une évolution, ouais.
C'est par respect, justement, oui, pour sa volonté que je tenais à le préciser là maintenant. Mise en scène d'Anne Bouvier, donc, au Théâtre Antoine, portée par Anne Parillo et Laura Laune. C'est jusqu'au mois de juin, donc il ne reste plus beaucoup de moments pour profiter de ce spectacle sur scène. Allez-y vite, c'est à 19h. Voici Tanguy.
Ce week-end, j'étais en tournée, d'abord à Tours, ville charmante, surtout la vieille ville. Hein. Comme dans toutes les villes, moi, ce que j'aime, c'est ce qui est vieux et un peu sale, je veux dire, les vieilles villes. Quoi. C'est pour ça que je traîne pas mal du côté des EHPAD, d'ailleurs, surtout quand la veille à la cantine, il y a du chou. Alors, sur place, belle ambiance, comme d'hab, après le spectacle, on me demande, il est comment Nagui en vrai? Pour rire, je réponds, c'est une crevure. Et en général, les gens très premier degré me disent, je le savais.
C'est vrai.
Ensuite, je suis allé jouer à Guidel, près de Lorient. Guidel, c'est là que chaque année se tient l'université de rentrée du modem. Donc, ils ont l'habitude de voir personne. Il y a juste Bayrou en marinière Guy Cotten qui, sur la plage, fait un palais de l'Elysée en sable, qui l'écrase ensuite en pleurs. Enfin. À Guidel, invité par le modem, il y a déjà eu Édouard Philippe, Elisabeth Borne, Jean Castex. Donc là, ils ont dû se dire, on va continuer notre parcours découverte des gens chiants en invitant Pastureau. Et enfin, hier, je suis allé jouer à Quimper, en après-midi. Voilà ce que les gens de théâtre appellent en matinée, puisque pour ces feignasses d'artistes, voilà, 16h, c'est le début de la journée. Et minuit pour eux, c'est l'après-midi. Enfin, être artiste, c'est se taper un jet lag permanent sans voyager. Pierre Arditi, sur 120 ans de carrière, il a une empreinte carbone moins importante qu'une vache normande qui arrive à retenir ses gaz, quoi. Donc, retour à Paris hier soir tard, et ce midi, je suis déjà là avec vous. Alors oui, je suis un surhomme. Marvel m'a contacté pour incarner à l'écran le personnage de Superphare Breton. Voilà, l'idée, ce serait en plein vol de lancer des pruneaux sur les méchants. Enfin. Mais là n'est pas la question, hein, puisque d'autres ont un rythme de vie effréné. Je pense à Gabriel Attal qui dort 17 minutes par nuit, ou Nicolas Sarkozy qui tous les jours voit un juge différent. Mais si, il a même fait une appli, adopte un juge. Le slogan, c'est rencontre les mecs en robe chaud sur ta région. Voilà, il y a aussi un jeu de mots scabreux sur le fait d'être à la barre. Enfin, il s'est lâché. Bon, et donc j'ai des heures de TGV à meubler. Le TGV, vous savez, c'est ce train qui t'emmène bien trop rapidement d'une ville pas top à une autre ville pas top. Hein, je passe tellement ma vie dans le TGV qu'hier, un contrôleur m'a demandé ma main. Il m'a dit, on se voit tout le temps, on a une petite relation tous les deux. Mais bon, j'ai refusé, donc il a remonté son pantalon. Les autres voyageurs ont fait, ah bah zut, parce que pour une fois qu'il se passait quelque chose dans le TGV. Et donc, vexé, il a vérifié ma carte de réduction. J'ai une carte avantage senior. En fait, j'ai voté les selles de Daniel et j'ai collé ma photo.
D'accord.
Hein, c'est-à-dire, quand les mecs voient le nom et disent, je vous écoute tous les matins à 6h55, vous avez l'air en forme pour quelqu'un qui se lève si tôt chaque jour. Je réponds, je fais de la chirurgie. Enfin, c'est Olivier Véran qui s'entraîne sur moi dans le cadre de son BTS Botox. Bon. Et donc, dans le TGV, bon, vous le savez peut-être si vous le prenez le TGV, il n'y a rien à faire. faire. On peut travailler, mais moi j'arrête, parce que ma réussite insolente me coupe de mes collègues du milieu de l'humour. Bon, on peut regarder le paysage, mais il n'y a plus que des éoliennes partout. La France, c'est devenu un groupe électrogène avec des champs humides autour. On peut lire des livres, mais personne ne fait plus ça. À part Nagui, hein, quand il prépare les émissions, qui a d'ailleurs été approché par le zoo de Beauval, pour bouquiner dans la partie espèce menacée à cheval sur un rhinocéros blanc. Et moi, je lis aussi, mais la presse. Parce que je suis moins intelligent que vous, Nagui. Hein. Une fois, je me suis trompé d'état, je suis à la France Culture. Bon, ils m'ont jeté des pierres. Et hier, je suis tombé sur un article de 20 minutes, le journal qui porte le nom de notre ambition intime le samedi soir. Article intitulé « L'incroyable histoire des Whittaker, la famille la plus consanguine des États-Unis ». Et ça collait pas mal à la situation parce que justement, je revenais de province. Voilà, j'étais pas pour hein, la relecture de ma chronique par Julien Santini, voilà. Parce que je savais qu'il allait ajouter un truc un peu méprisant pour les gens.
C'est passé.
Bref, je vous raconte, un photographe américain qui s'appelle Mark Leita, et dommage pas Leica, parce que c'est une marque d'appareil photo, enfin c'est comme si c'était appelé culac quoi. Ok, bon, ce type a découvert au bout d'une route qui menait à un sentier, qui menait à un chemin, qui menait à rien, une famille, les Whittaker, au fin fond de la Virginie, parce qu'il y a des états américains qui portent des noms de femmes, Virginie, Caroline, il y a pas de Sylvie. Mais enfin bon, c'est pas passé loin. Les Whittaker vivent dans des bicoques. Vous voyez la propriété de Brad Pitt dans le Var ?
Oui.
Ok, donc vraiment rien à voir. Ils sont tous consanguins depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que deux sœurs au départ ont épousé deux frères, puis un couple composé de cousins germains. Enfin, ils n'ont pas compris qu'à pratiquer en famille le maximum, c'était le repas du dimanche. Hein, et qu'à cette occasion, d'ailleurs, il fallait garder son slip. C'est donc parti en cultitès, comme disent ceux qui refusent de dire yoku. Et aujourd'hui, ils sont tous, disons, bon... atypique. C'est-à-dire que Mark Leita raconte que la première fois qu'il les a vus, il y en avait un qui tapait dans des poubelles en hurlant, chose qu'on fait à Paris en criant « Bah alors Hidalgo, hein, tu fais quoi ?» Lorraine, une des consanguines, ne parle pas, elle n'a jamais parlé, ni son fils Timmy, qui est né d'un viol, puisque la vie n'est pas rose chez les Whittaker. Hein. Et il y en a même un qui aboie. Voilà, donc j'imagine que pour le mercato de la rentrée, il est en négociation avec la chaîne Animaux. Leita a donc fait un documentaire sur ces gens qui a cartonné sur YouTube des millions de vues. Il a ouvert une cagnotte pour eux sur Internet. L'argent a été dilapidé par on ne sait pas qui, parce que les Whittaker vivent toujours dans des cabanes, moins bien hein, que celles dans les arbres à 400 euros la nuit sur Airbnb que louent les citadins rêvant d'être proches de la nature, mais juste pour 12 heures. Aux États-Unis, les Whittaker sont devenus des stars, surtout celui qui aboie. Hein. On est aux USA, donc même si on lui donne des sucres, il y en aura toujours moins dans le sang que les autres Américains. Quoi. En fait, tout ça est affligeant. Vous voyez, c'est du freak show, des spectacles de monstres. C'est-à-dire que le cirque s'est juste déplacé. Avant, c'était sous chapiteau. Maintenant, c'est partout sur le net et ça fait des millions de clics. Je me suis dit ça dans le TGV, alors j'ai éteint mon écran et j'ai pris un bouquin en me disant elle est pas mal finalement, la vie de Nagui. Quoi.
Merci Tanguy Passereau. Ouais, parce que le Wi-Fi, c'est pas toujours ça non plus. Hein.
Oh non.
Pas Tanguy Passereau, le 13 avril à Biarritz, à la gare du Midi.
Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel.
Les femmes chanteuses, musiciennes, artistes évoquées dans votre spectacle. Il y a également Christine de Queen, Cécilia Bartoli, notre Véro National.
Je suis loin de lui.
Et une icône aussi, Marianne Faithfull. Quand on dit icône ou muse, on pense généralement au Pygmalion, qui est forcément un prédateur. Tout à l'heure, vous évoquiez.
Je pense qu'il y a,
une emprise.
Il y a deux sortes. Il y a les Pygmalions qui repèrent une valeur chez vous et qui vont tout faire pour l'extraire, mais pour vous. Mmh. Et puis il y a le Pygmalion qui repère une valeur et puis qui va se l'approprier et qui va vous construire à son image.
Anne Parillon,
donc il y a les bons et les mauvais Pygmalions.
Vos Pygmalions sont toujours bien comportés ?
Oh non, c'est plus complexe que ça, oui. Non, c'est plus complexe que ça, bien sûr. D'abord parce que, voilà, quelqu'un comme Alain Delon, c'est quelqu'un qui a de toute façon déjà une exigence et une quête de la perfection absolue qui, de toute façon, vous entraîne dans son sillon de ce tyrannisme de la perfection et qui l'a inculqué chez moi. Mais encore une fois, finalement, je le remercie aussi parce que, alors, c'est pas facile à vivre parce qu'effectivement, chez une femme, l'exigence, c'est casse-couille, comme on l'a dit. Mais voilà, il a inculqué aussi des préceptes que j'ai conservés, mais c'est pas toujours sous la tendresse et sous la gentillesse. Il y a beaucoup de tyrannie, il y a beaucoup de il y a beaucoup d'imposition et d'emprise.
Luc Besson, vous n'en parlez pas ?
Bah, c'est compliqué, c'est le père de ma fille. Entre autres.
Laura Lone, le fait d'être sur scène et de dire, j'ai pas envie de dire des horreurs parce que je trouve que c'est limité et ne finalement pas faire attention à toute l'intelligence dans l'écriture et à tout ce que vous faites passer justement comme
trop réducteur,
comme valeur, exactement. C'est trop facile de dire elle dit des horreurs, mais enfin il y en a quand même qui sont dites. Peut-être pas y aller forcément avec des enfants au spectacle. C'est interdit au moins de 14 ans toujours.
C'est interdit au moins de 14 ans, ouais, tout à fait.
Toujours le premier, toujours. C'est le cas,
le deuxième aussi, ouais.
Ok,
ouais.
Très bien. Permet en tout cas ou laisse certaines personnes se comportaient comme des gros porcs avec vous, et ça a donné une idée qui s'appelle Trash.
Oui, ouais, tout à fait.
C'est les haters qui vous insultent, qui...
Oui, je pense de toute façon, à partir du moment où on est exposé, on reçoit ce genre de messages sur les réseaux de haters ou de détracteurs en tout cas, et des messages d'insultes, de menaces, toutes sortes de choses. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de matière et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire de tout ça.
On était à ça de la matière fécale, hein, d'ailleurs. Hein, ça, oui, ça allait loin.
C'est ça. Ça allait loin. Et je me suis dit, en fait, c'est toujours la même chose. C'est que je pense qu'il faut en parler plutôt que de les cacher, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. J'ai eu envie de le dire et de détourner ça un peu en dérision. J'ai créé ma marque qui s'appelle Trash, qui veut dire aussi...
Combien de H ?
Avec deux H, qui veut dire aussi déchets, du coup. Et dans laquelle, en fait, j'ai créé des t-shirts, des posters sur lesquels j'affiche tous ces messages de haine qui sont tournés de façon un petit peu humoristique. Mais c'était une...
Esthétique aussi.
Esthétique, merci. C'est une façon un peu, ouais, de parler de harcèlement, en tout cas.
Et écologique aussi.
Et de recyclage, parce qu'il y a... là, par exemple, pour la Saint-Valentin, on a sorti un produit qui était... où j'ai rassemblé toutes les remarques sexistes que j'avais reçues. Et il y a une partie des bénéfices qui est reversée à une association qui a justement contre le cyberharcèlement, donc il y a une sorte de recyclage de la connerie humaine, en fait.
Il y avait une vanne que j'avais adorée, c'est quand quelqu'un vous avait traité de sale pute et grosse pute, et vous aviez dit c'est gentil, c'est comme si je faisais un peu partie de ta famille. Je trouve ça tellement, tellement intelligent. On va changer d'humour, voici Daniel Morin. Désolé, pareil.
Ouais, une petite transition, c'est ça ?
Ouais, Laura Lone n'a pas voulu venir dans la bande originale. Par contre, Daniel a voulu rester dans la bande originale.
Absolument, j'ai une vision, mon Agui. Oui, mon Kiki, t'as raison. Cette vision, je l'ai eu en regardant les infos. J'étais sur mon canapé en cuir de bébé phoque, cadeau d'Emeric Caron à l'époque où il n'était pas encore végétophile. J'étais allongé, j'étais détendu. Tanguy, mon amoureux, me massait les pieds à l'huile de vidange. J'étais bien. Les infos prennent fin et là, mon Tanguy se lâche. Non mais quel monde de merde, tout va mal, on est en train de crever à petit feu. Moi, j'en ai ras le pompon de tous ces connards qui nous entourent. L'hypocrisie ambiante me dégoûte. À partir d'aujourd'hui, je vais envoyer chier tout le monde. Voilà, ça va me faire du bien d'être négatif. On n'est pas chez Disney, merde. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Mais bien sûr, elle est là la solution. Pour que tout le monde et que le monde paraisse moins stressant, vivons comme chez Disney, parlons comme chez Disney, créons-nous un monde de rapports bienveillants, même si ça ne va pas. Ici, quand j'arrive au bureau, je ne suis pas toujours d'excellente humeur. En général, quand j'arrive dans le bureau, je ne suis pas au top du « youhou ». Alors, souvent, ça donne ça. Ça va les nazes, j'espère que votre week-end a été bien pourri. Lisa qui tire la gueule, Julien qui met un t-shirt moche, c'est bien, rien ne change. Bon, c'est qui l'invité demain ? Alex Lutz ? Et une belle semaine de merde qui commence. Faut arrêter avec ça. Positivons, adoptons la Disney attitude dès notre arrivée au bureau. Coucou les amis, quelle joie de vous revoir. Vous avez dû passer un super week-end, vous avez tous des mines superbes. Oh, Julien, ce t-shirt, quelle audace, j'adore. Oh Lisa, tu es lumineuse, j'ai l'impression que tu as enfin trouvé l'amour. Béni sois-tu. Hein. On a qui demain ? Alex Lutz ?
Oui.
Oh, c'est Rami après-demain. C'est mieux quand on positive, non hein ? Et si vous êtes parisien et qu'au supermarché, vous tombez sur un Hidalgo, ne tombez pas dans l'outrance. Ah bah t'es là, toi ! Ah, t'as pas peur de te montrer en public, hein ? On n'en peut plus des travaux, des trottinettes et des JO. Remonte sur ton tricycle et va massacrer une autre ville, nom de Dieu ! Non ! Soyez Disney positif, soyez Disney plus. Oh, bonjour, madame la maire ! Quelle joie de vous croiser ! Les travaux, c'est une super idée, hein ? Ça met une grosse animation dans Paris. Le problème, c'est que comme vous êtes très généreuse, il y en a partout, on ne peut pas tous les visiter. Vous devriez en faire moins pour qu'on les fréquente mieux. Voilà, message, sourire à la fois. Et même pour chez vous, c'est valable cette attitude. Quand votre voisine de 95 ans joue de l'accordéon le dimanche entre 8h et 10h, vous êtes souvent tenté de sonner chez elle et de lui dire « Écoute-moi, Yvette Horner, j'ai rien contre l'accordéon, j'ai rien contre toi, mais les deux ensemble, je ne peux pas vous blairer. Je vais rentrer chez moi. Et si je réentends une seule misérable note sortie de ton instrument de haine, je reviens avec un sécateur, je te coupe les doigts un par un, tu verras. C'est moins mélodieux le musette quand on joue avec des moignons. » C'est vrai que c'est tentant, mais c'est violent.
Essayons plutôt l'apaisement.
S'il te plaît.
Avec menace déguisée. Bonjour voisine. Waouh, quelle jolie robe de chambre. J'adore le nylon. C'est vous qui enchantez tout le monde avec cette musique. C'est génial, vous êtes très talentueuse. Hein, c'est vrai qu'un monde sans musique, c'est triste. Heureusement, il y a des gens comme vous. En plus, vous ne le savez peut-être pas, mais l'accordéon a sur moi des vertus aphrodisiaques. Là, tel que vous me voyez, je suis très excité. Mais vraiment très très excité. Si jamais vous continuez de jouer, je pense que je remonterai vous voir, mais cette fois... tout nu. Le message est passé, elle a eu peur, mais avec le sourire Disney, et ça va, ça rend le monde plus meilleur très bon. Voilà pour parler Disney. Voilà mon aiguille, ma vision pour résister dans un monde chargé de tension et de colère. Mettons-nous à parler Disney, ça fera du bien. Alors, bien sûr, je peux me tromper.
Non, pas
mais
toi.
Vous avez raison, ça m'étonnerait.
Non, merci Daniel Morin. Anne Parillo, Laura Lone sur scène. Je ne serais pas arrivé là. 6 points de suspension. Signé Annick Cogent, mise en scène par Anne Bouvier, tout ça au Théâtre Antoine à Paris. Je ne sais pas s'il est déjà question prévue de partir en tournée ou si ça sera trop compliqué vu vos emplois du temps respectifs.
Ben, on en a parlé, c'est ça, mais voilà, effectivement, ça dépend aussi de Laura qui
de chacune.
Est vagabonde. Ouais. Mais moi, j'adorerais, honnêtement, je pense qu'il mérite beaucoup plus que le nombre de représentations qu'on a là. Surtout qu'au départ, il était prévu que ça soit une lecture, que c'est devenu un spectacle, et qu'effectivement, du coup, tout ce qui avait été organisé était en fonction d'une création qui est complètement différente de celle qu'on a proposée. Mais moi, j'adorerais partir en tournée et même le reprendre.
Dans une salle parisienne plus tard, après fin 2025, qui est la fin de votre tournée en ce moment, Glory,
ouais,
Alléluia.
J'y suis encore, là j'enchaîne en fait les dates de la pièce et puis les dates de spectacle, donc je fais un peu les deux en même temps.
Parallèlement, il y a déjà alors, le théâtre et la scène, est-ce qu'il y a d'autres projets que vous menez de front aussi, l'écriture d'une fiction, que sais-je, d'un film?
Ouais, c'est dans ma tête depuis un petit moment, c'est le tout début. Je bosse aussi sur de la musique et tout, donc il y a plusieurs projets qui sont en cours.
Vous jouez du piano et de la guitare dans la vie, hein, je parle.
Ouais, et ben, sur scène
aussi, ouais, d'ailleurs. Enfin, pourquoi je souligne ça, c'est vrai. Anne Parillo, vous avez joué dans Ballerina de Len Wiseman qui sortira en 2025, lui, ce film,
oui,
avec Keanu Reeves.
Oui, absolument, mais c'est vraiment... j'ai pas le mot là... Ah, vous savez, quand on fait une apparition...
Un guest, un featuring, oui, voilà. Un caméo,
je sais pas. Oui, un caméo, c'est le mot que je cherchais.
Très bien. Et on peut parler d'autres projets ou pas encore?
Moi, je suis en pleine écriture de mon deuxième roman.
Parfait.
Et donc, ça a été totalement interrompu parce que j'ai du mal à faire plusieurs choses à la fois. Donc, j'ai tout lâché, mais voilà, je reprends dès que le spectacle est terminé.
Des excuses à présenter, Daniel Morin, avant de se quitter.
Oh oui, mon Dagui. Désolé pour Anne Parillo qui, ce matin, pensait naïvement pouvoir finir ses phrases en promo. Ma pauvre dame, il y a des émissions pour ça sur Internet, surtout des émissions sans Nagui. Et puis, comme me le confiait très justement Julien, c'est quand même pas des gonzesses qui vont nous apprendre ce que c'est que le combat féministe. Fin de citation. Désolé encore une fois pour Anne Parillo qui, en une émission ce matin, est passée de Leonardo DiCaprio à un autre italiano lover, Giuliano Santini. Alors, je ne juge pas, c'est un autre style, une autre vie, c'est surtout que Santini est plus dans notre budget. Désolé, enfin, pour la personne qui a cherché durant toute l'émission à joindre Anne Parillo au téléphone. Alors, elle va bien, ça a l'air, en tout cas, voilà. C'est juste arrêter d'appeler. Elle connaît pas le mode silencieux et c'est super fatigant. Et désolé pour Nagui, qui n'a jamais été rappelé par Laura Lone. Alors, Nagui, Laura va bien. Elle a une excuse, elle veut pas te parler.
C'est ça. Merci Laura Lone, merci Anne Parillo.
Merci.
Et bravo Théâtre Antoine, donc je ne serais pas arrivé là. 6 points de suspension. Alex Hutt sera notre invité demain, tout de suite les carnets de campagne. Bonjour Dorothée Barba, que se passe-t-il aujourd'hui?
Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'une appli pour la rando qui fait un carton chez les mordus de marche à pied et qui a commencé tout petit en Alsace. Une application pour ne pas se perdre sur les sentiers, mais qui permet de marcher sans avoir le nez collé sur son écran.
Parfait. Ben merci, bonne émission. Allez, à demain.
On en parle. les acteurs de la filière bovine s'engagent au quotidien pour vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle avec Thomas, boucher à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous proposez à vos clients du bœuf exclusivement produit sur notre territoire. Pourquoi ?
Eh bien, parce que la viande bovine offre une grande variété gustative grâce à la richesse de nos régions et de nos terroirs.
Eh oui.
Vous connaissez la charolaise ou la limousine ?
Oui, bien sûr.
Bah, en réalité, il y a une quinzaine de races à viande.
D'accord.
On les reconnaît grâce à leur robe, mais surtout grâce à leur grain de viande.
Ah ouais. Et ce sont les seules différences avec le bœuf étranger ?
Non, il y en a plein d'autres. Mais c'est surtout nos normes sanitaires qui sont parmi les plus rigoureuses.
J'imagine. Donc pour vous, vous approvisionnez auprès de nos éleveurs, c'est une évidence.
Oui. Je sais que la viande que j'offre à mes clients n'a pas fait le tour du monde.
Oui.
Et puis je contribue à mon niveau à pérenniser ce beau métier d'éleveur et à soutenir une filière bovine engagée qui génère des emplois dans nos territoires.
Ça c'est très bien. Merci Thomas.
On en parle. Consultez nos sources d'informations sur interbef.fr, rubrique Enjeux sociétaux.
France Inter, partenaire de La Fleur de Buriti, un film de René Nader Messora et Joao Salavizza. Guidés par leurs rites ancestraux et leur amour de la nature, le peuple indigène Crao ne cesse d'inventer de nouvelles formes de résistance. À travers les yeux de sa fille, Pat Pro va parcourir trois époques clés de l'histoire de son peuple. Un récit vibrant et engagé au cœur de la forêt brésilienne. La Fleur de Buriti, le 1er mai au cinéma, un film France Inter.
France Inter, il est midi et demi. L'heure des titres du 13-14. Bonjour Jérôme Cadet.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous. Tout à l'heure dans le 13-14, nous parlons de la pluie qui tombe enfin et en abondance après des mois de sécheresse sur le département des Pyrénées-Orientales. Nous écouterons des témoignages sur place et nous verrons si cette pluie suffira pour résoudre les problèmes posés par la sécheresse. Pluie abondante aussi ces dernières heures autour de Lyon avec un trafic ferroviaire perturbé au sud de Lyon. Nous ferons le point tout à l'heure dans le 13-14. Nous vous expliquerons également pourquoi le président chinois Xi Jinping sera dans le département des Hautes-Pyrénées. Ce sera la semaine prochaine. À partir de 13h30, avec nos invités, nous parlons du coût des violences sexuelles et des violences conjugales, notamment pour les femmes qui sont la majorité des victimes. Elles peuvent déclencher des frais très importants. C'est parfois un volet un peu ignoré de ce sujet. Vous pouvez témoigner 01 45 24 7000 si vous-même avez dû faire face à ces phénomènes de violence. Vous pouvez nous raconter la difficulté de votre quotidien et les coûts auxquels vous avez dû faire face. Ce sera à partir de 13h30. Et puis on va s'intéresser aussi aux nouveaux mots du dictionnaire Larousse illustré pour 2025. Il y a 150 nouveaux mots et beaucoup de mots sportifs, notamment skatepark, trottinettiste ou encore badiste, qui n'est autre qu'un joueur de badminton. Voilà, vous avez le programme. À tout à l'heure, Dorothée.
Merci Jérôme. À tout à l'heure, 13h.
Carnet de campagne avec La Belle Énergie, fournisseur d'électricité renouvelable et française. Ensemble, agissons pour un monde plus vert. La Belle Énergie, tant qu'elle est verte.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après le bas, le haut. Nous étions dans le Bas-Rhin la semaine dernière à Strasbourg. Le département du Haut-Rhin est à l'honneur dans les carnets de campagne cette semaine. Nous restons en Alsace donc. Le jeu des 1000 euros que vous retrouvez dans un quart d'heure est à Mauche, pas loin de Mulhouse. Rando Resto, voilà le programme des carnets du jour. Je vous parle d'une application de randonnée qui rencontre un gros succès et ensuite d'un très chouette restaurant solidaire à Mulhouse, justement. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Si comme moi, vous aimez marcher, vous avez peut-être du mal, comme moi, à choisir vos itinéraires. Où aller pour randonner ? Eh bien, voici un outil numérique, une application conçue pour aider les randonneurs et les randonneuses à préparer leur périple. Viso Rando, disponible partout en France et même à l'étranger désormais, est né à Souls, dans le Haut-Rhin. Bonjour Arnaud Locus.
Bonjour.
Vous avez créé cette appli il y a 10 ans avec votre cousin Fabien Bivert, qui est guide de montagne. Vous étiez deux au démarrage, vous êtes 15 salariés à plein temps aujourd'hui, preuve qu'il y avait une demande en la matière. Expliquez-nous cette appli alors, comment ça marche, Viso Rando ?
Eh bien écoutez, en fait, on est déjà un site et une appli communautaire, c'est-à-dire que tout ce qu'on propose, en fait, toutes les randonnées qu'on propose viennent du fruit du travail d'auteurs particuliers aux collectivités locales. Et nous, c'est vrai qu'on a créé une plateforme au début qui permettait de gérer tout ça. Alors, l'intérêt pour le randonneur, c'est qu'il va pouvoir trouver sur Visorando des parcours de randonnée qui ont été sélectionnés, qui ont été vérifiés dans toute la France. On en a à peu près 30 000 hein, en France, notamment aussi dans les collectivités d'outre-mer, un petit peu à l'étranger. Et on a accompagné tout ça d'outils pour suivre la randonnée, suivre sa progression en fait lorsqu'on randonne. Donc avec l'application mobile, vous êtes localisé sur une carte, vous voyez le tracé. Il y a une alerte d'éloignement si vous trompez de chemin. Et donc l'idée c'est de vous aider à trouver des randonnées sympas et à les apprécier et surtout ensuite à retrouver votre point de départ aussi.
Voilà, mais le problème c'est qu'on a plutôt envie de décrocher des écrans quand on se promène dans la nature.
Ah ouais, on a envie de décrocher des écrans et du coup on a conçu l'appli pour ça. On a mis en place une alerte d'éloignement, c'est-à-dire que il vous suffit de garder votre téléphone dans la poche et si vous vous trompez de chemin, le téléphone va sonner. Voilà, et va vous avertir que vous avez pris la mauvaise direction. Donc l'idée, c'est juste de le sortir lorsqu'il y a des intersections ou lorsque vous avez un doute. Et sinon, en tout cas, l'application sera là pour vous rappeler que si vous êtes ou pas sur le bon chemin.
Voilà, on ne marche pas le nez collé sur son écran. Donc.
Non, on ne marche surtout pas le nez collé sur l'écran, c'est pas le but. On regarde ce qu'il y a autour de toi, il y a plein de choses à voir dans la nature. Mmh. Et évidemment, quoi, et heureusement même.
Alors votre appli née en Alsace a-t-elle un prisme alsacien? Dites-moi, est-ce qu'il y a un petit favoritisme pour les randonnées dans le Grand Est?
Alors, dans le Grand Est, on a le massif des Vosges, voilà, qui est entre l'Alsace et la Lorraine. Effectivement, on a énormément de randonnées dans le massif des Vosges. D'une part, parce que c'est un territoire de randonnée, hein, historiquement. Hein, le club vosgien est là depuis très longtemps, bien avant nous. Et parce qu'on a une communauté qui s'est forgée, qui est partie un petit peu d'Alsace, mais pas que. Et c'est vrai que du coup, on a beaucoup de randonnées proposées autour de l'Alsace, oui, et dans les Vosges.
Dites-moi, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de réseau? C'est fréquent en rando?
Ah oui, ça, effectivement, en montagne, dans les endroits un peu reculés, dans les endroits encaissés, effectivement, on peut ne pas avoir de réseau. Et là, en fait, nous, ce qu'on a mis en place, c'est une petite fonctionnalité qui permet très facilement, en un clic, d'enregistrer au préalable, hein, lorsque vous êtes encore chez vous, hein, sur le Wi-Fi, là où il y a du réseau, toutes les données de la randonnée, avec la carte, le tracé, tout ça, sur votre téléphone. Et du coup, une fois que vous êtes sur le terrain, même s'il n'y a plus de réseau, et même nous, ce qu'on recommande, c'est de mettre votre appareil en mode avion, hein, carrément pour tout couper, pour être tranquille, pour consommer moins de batterie. Et l'appli va gérer ça toute seule et vous aurez quand même tout le parcours, toutes les données à votre disposition.
L'application est gratuite, mais il y a certaines fonctionnalités qui sont disponibles sur abonnement, c'est ça?
Ouais, c'est ça, effectivement. Alors, la recherche d'itinéraire, le suivi d'itinéraire, là, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, la mise en cache, donc la mise accessible hors réseau, ça, c'est gratuit. Mais à côté de ça, faut bien qu'on vive aussi. Effectivement, on est une équipe de 15 personnes à temps plein. Et donc, on a un abonnement payant qui offre accès à des fonctionnalités en plus, hein, notamment l'accès aux cartes IGN, hein, c'est les cartes topographiques de randonnée qui sont très précises. Ça donne accès aussi à du partage de position en temps réel. Si vous randonnez seul, hein, s'il y a beaucoup de gens qui apprécient cette fonctionnalité pour des raisons de sécurité, pour que leurs proches sachent où ils sont, s'ils sont près de l'arrivée, s'ils ont bien fini la randonnée. On a aussi des informations météo qui sont détaillées, hein, qui sont assez précises, notamment en montagne. Ça va vous donner les températures prévues aux altitudes de la randonnée, donc notamment au point haut, au point bas. Donc voilà, c'est vraiment des outils en plus pour un usage un peu plus avancé et pour mieux préparer sa randonnée.
Vous le disiez, l'appli Visorando propose 30 000 itinéraires en France. Est-ce que vous avez une randonnée coup de cœur parmi toutes celles-là?
Alors, nous, on n'aime pas trop les coups de cœur chez Visorando parce que le problème, c'est que des randonnées, des jolies randonnées, il y en a plein partout. Et le problème qu'on a eu ces dernières années avec les coups de cœur et les top randonnées, c'est que si on parle de coups de cœur, les gens vont au même endroit, vont tous au même endroit. Et nous, c'est vraiment pas ce qu'on veut.
Voilà, c'est l'épouvantail quand on randonne, évidemment.
C'est l'épouvantail, c'est ça, voilà. Et du coup, en fait, nous, il y a des belles randonnées dans tous les massifs, dans tous les territoires, hein, pas que les massifs montagneux d'ailleurs. Donc, j'ai pas de coups de cœur à vous partager. Puis c'est à vous de trouver votre coup de cœur personnel.
2 millions de téléchargements de Visorando depuis sa création il y a 10 ans. Est-ce que vous vous attendiez franchement à un tel succès?
Au début, pas du tout. En fait, avec mon cousin Fabien Biver, On a développé ça parce que c'était d'abord une passion, hein, la randonnée. Ça alliait nos connaissances et nos compétences personnelles. Lui, connaissance du terrain, du milieu de la randonnée, de la nature. Moi, plutôt le côté technique, hein, développement web, etc. Donc, on a monté au début un petit site, hein, communautaire. Et puis, c'est vrai que on est toujours passionné. On a voulu le faire grandir et la communauté derrière a suivi, les utilisateurs ont suivi. Et on en est maintenant une équipe de 15 personnes et qui n'était pas du tout prévue au début, ça c'est clair. Hein. Voilà, c'est une bonne surprise, mais c'est aussi une aventure qui a commencé il y a une bonne dizaine d'années et qui continue maintenant. Et c'est vrai que c'est très appréciable. Enfin voilà, on apprend plein de choses. C'est vraiment une aventure pour nous.
Et vous êtes désormais présent à l'étranger aussi.
Oui, alors effectivement, on est présent depuis quelques années au Royaume-Uni et en Allemagne. Alors déjà en français, dans d'autres, un peu partout dans le monde, mais voilà, on n'avait pas de stratégie particulière là-bas. Mais sur le marché germanophone en allemand et au Royaume-Uni en anglais, oui, on est présent. Et on a fait l'acquisition cet hiver d'une entreprise anglaise, un site communautaire développé par quelqu'un qui nous ressemble beaucoup. Et voilà, et l'idée, ça va être de fusionner petit à petit ces deux communautés pour n'en faire qu'une plus importante et plus intéressante.
L'histoire ne dit pas combien d'ampoules au pied vous avez suscité depuis 10 ans.
Ça non, on n'a pas compté. Non. Mais on pourrait, ce serait une fonctionnalité intéressante, compter les ampoules au pied, oui.
Une statistique nouvelle à vous proposer. Ça s'appelle Viso Rando, c'est donc une application disponible en partie gratuitement. Merci beaucoup Arnaud Locus.
Merci beaucoup.
Et bonne journée, au revoir.
Merci, au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Nous voici à Mulhouse pour parler d'un resto signalé par la Fondation de France qui le soutient. La Table est un restaurant solidaire. Les salariés, en cuisine et en salle, sont des personnes éloignées de l'emploi qui retrouvent ainsi un cadre, des horaires de travail et de la confiance en eux. Quant au prix du repas, pour les clients et les clientes, il est adapté à leur porte-monnaie. Bonjour Brigitte Carraz.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'association Cité Solidaire qui gère ce resto à Bourzwiller, quartier populaire de Mulhouse. Vous pratiquez la carte d'infidélité à la Table. En quoi ça consiste ?
Nous donnons à nos clients une carte d'infidélité aux personnes qui ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Cette carte d'infidélité leur permet de payer un tarif solidaire, tarif qui est de 6 euros par rapport au tarif 14 euros pratiqué pour l'ensemble des autres clients. Oui, alors nous proposons cette carte d'infidélité en proposant effectivement à nos clients d'être infidèles à leurs revenus, c'est-à-dire d'avoir de meilleurs revenus et donc de ne plus avoir besoin de cette carte d'infidélité pour un prix solidaire et de transmettre cette carte à une autre personne qui pourrait en bénéficier.
Voilà, voilà. Vous êtes ravis qu'on vous
soyez
soit infidèle.
Soyez infidèle à votre carte. Voilà, on vous le souhaite, on vous le souhaite.
Ça permet d'être plus discret quant à son niveau de revenu, hein, cette carte d'infidélité.
Tout à fait. Et nous proposons donc aux personnes, à tous nos clients, de régler leur consommation à la caisse. Ce qui fait qu'on peut très bien être à une table où quelqu'un va payer 6 euros, d'autres 14 euros. Et puis peut-être une personne aura une invitation gratuite parce que nous avons également les repas suspendus. Et à ce moment-là, les repas suspendus, c'est des repas qui ont été financés par des clients qui, en plus de leur repas, payent 6 euros, qui nous permettent d'avoir un certain nombre de repas que nous pouvons offrir à des associations qui sont nos partenaires.
Voilà, le repas suspendu, c'est inspiré du café suspendu, hein, qui est le même principe, mais avec le café.
Tout à fait. C'est à peu près à la même époque qu'on l'avait mis en place. Hein. Je crois que les idées se sont un peu diffusées sur toute la France, ces idées de café suspendu, baguette suspendue. Et nous avions innové avec les repas suspendus.
Voilà. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il y en a de plus en plus aujourd'hui, hein, des restos solidaires comme le vôtre qui se battent pour la mixité sociale avec des prix variables en fonction des ressources de chacun. Mais en 2008, année de naissance de votre resto, c'était très innovant. Hein.
Nous étions pratiquement les seuls. Nous étions pratiquement les seuls. Et effectivement, depuis, j'ai eu l'occasion d'aller à un restaurant solidaire à Saint-Étienne. J'ai suivi dans la presse celui qui s'est monté à Marseille, qui est un restaurant gastronomique. Et puis, il y en a également un ou deux à Paris et dans d'autres régions, avec des formulations différentes. Parfois, certains sont tenus essentiellement par des bénévoles. D'autres, ce sont des salariés. Voilà, il peut y avoir différentes formes de fonctionnement.
Vous cuisinez aussi pour les tout-petits à la table?
Oui, puisque nous avons comme clients des crèches et qu'en plus de notre restaurant, nous livrons tous les jours environ 350 repas dans des crèches, dans une école. Voilà.
Vous cuisinez avec des produits frais, des produits de saison, des menus équilibrés. Et le personnel de votre resto, je le disais, sont des personnes éloignées de l'emploi. Ça fait pas mal de passages, j'imagine. On ne reste pas très longtemps dans votre restaurant.
Donc les personnes peuvent rester, les salariés peuvent rester un maximum de 2 ans. Mmh. Ensuite, c'est en fonction de leur projet. L'objectif étant, bien sûr, à leur niveau, de leur permettre de reprendre le pied à l'étrier, de se remettre en situation de travail et de se former. C'est nos encadrants sont avant tout également des formateurs et permettre aux personnes d'acquérir des compétences qui vont leur permettre ensuite de trouver un emploi à l'extérieur du restaurant.
Et on peut payer en cigogne chez vous, monnaie locale et solidaire.
Oui, il s'agit de la monnaie complémentaire dans le Haut-Rhin, essentiellement sur Mulhouse et environ, mais qui s'est élargie également sur les environs de Colmar, la cigogne. Voilà.
D'ailleurs, vous dites, c'est pas un restaurant social, c'est un restaurant solidaire, ça change tout.
Ah oui, j'insiste tout à fait. Alors, la différence que je fais, c'est que le restaurant social s'adresse uniquement à des personnes qui sont adressés par des services sociaux essentiellement et qui n'ont vraiment pas du tout les moyens de pouvoir se nourrir par ailleurs, avec un financement public important. Alors que nous, c'est un restaurant solidaire parce que la solidarité émane des clients essentiellement. C'est les citoyens qui participent à ce qu'il y ait une égalité de droits devant les repas.
Celles et ceux qui payent leurs repas plus chers financent les repas des plus démunis.
Oui, des plus démunis.
La table, c'est donc à Mulhouse, rue de Soultz, quartier Bourdsviller. Merci beaucoup Brigitte Carraz.
Merci, au revoir.
Carnet de campagne, avec La Belle Énergie, fournisseur d'électricité renouvelable et française. Ensemble, agissons pour un monde plus vert. La Belle Énergie, tant qu'elle est verte.
Et voici à présent le jeu des 1000 euros sur France Inter. Nicolas Stoufflet.
Chers amis, bonjour. De quel parc naturel régional la commune de Mauches fait-elle partie? Ce parc naturel régional, c'est celui des Ballons des Vosges. Ce village de Mauches se trouve à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Mulhouse. On y passe la semaine dans ce département du Haut-Rhin, village même situé au pied du Grand Ballon qui culmine à 1424 mètres. Nous sommes proches de Tannes, de Cernay et Mauches. C'est ainsi qu'on prononce le nom de cette commune, M2OSCH, Mauche, plutôt avec un O fermé et plutôt en traînant un petit peu sur le haut, puisqu'il y en a deux, en fait, Mauche. Nous sommes en Alsace, évidemment, ça ne vous aura pas échappé, dans la vallée de la Thur, précisément, ancienne vallée industrielle textile. La commune, c'est 1642 habitants, sur le territoire de laquelle se trouve un cimetière qui est inscrit depuis peu au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est un cimetière militaire, nécropole nationale, où sont enterrés plus de 500 poilus, les soldats de la Grande Guerre, essentiellement d'ailleurs des soldats tombés en 1915 pendant la bataille du Vieil Armand, du nom d'un autre sommet vosgien, appelé aussi le sommet Hartmann-Willerkopf. On passe la semaine à Mauche, on aura l'occasion de vous reparler de ce village. Nous sommes dans la salle de l'Espérance, du nom de l'association qui la possède. Merci de votre accueil et bienvenue à notre premier duo de la semaine, Laetitia Ottmann et Gilles Clarin. Bonjour Laetitia.
Bonjour Nicolas.
Nous sommes très heureux parce que nous commençons avec vous cette semaine et vous êtes mauchoise, habitante de Mauche.
Tout à fait, j'habite Mauche depuis 5 ans.
Laetitia, quelles sont vos activités?
Actuellement, je suis en congé parental parce que j'ai un bébé de 1 an.
Donc il y a le côté congé, mais c'est pas du congé pour faire des grasses matinées.
Non, pas vraiment. Non.
Donc le petit a moins d'un an, c'est ça?
Il a eu 1 an le mois dernier.
Bah, il fait ses nuits quand même maintenant.
Ça va, ça dépend lesquelles.
Ah, ça dépend quelle nuit, oui, très bien. Vous avez donc 4 enfants, et le plus grand, quel âge a-t-il?
Elle a 15 ans.
Quelles sont vos activités sinon? Est-ce que vous avez un petit peu de temps pour des activités extérieures, extra-familiales, Laetitia?
Oui, je suis vice-présidente d'une association locale qui s'appelle les Chevalmalas, qui en fait régit une école bilingue au sein de Mauche.
École associative bilingue français-allemand?
français, allemand, alsacien.
Ah oui, donc trilingue en fait. On peut dire les choses de cette façon, si on veut, oui. Français, allemand et alsacien. Et par ailleurs, vous êtes supportrice du RC Strasbourg, d'après ce que vous m'avez dit, et d'après ce que je vois sur votre bras, si je puis me permettre. Alors, on est à la radio, on n'est pas à la télévision. Si on avait été au jeu des 1000 euros sur France 3, je vous aurais demandé de montrer votre tatouage. Mais que représente ce tatouage, Laetitia ?
Alors, c'est le logo du Racing Club de Strasbourg et il est entouré des prénoms de mes enfants.
Ah, c'est beau ! Laetitia, qui joue avec nous ! Ah, des applaudissements, mais pas tant que ça, hein, finalement. Moi, je le trouve très... Il n'y a pas de supporter du RC Strasbourg, ici ?
Mais si, il y a un monsieur avec le maillot.
Ah, monsieur a le maillot, d'accord. Laetitia avec Gilles Clarin. Bonjour, Gilles.
Bonjour, Nicolas.
Vous habitez Rixheim ?
Oui, c'est cela.
Et vous travaillez à Mulhouse ?
À l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
C'est ça.
C'est à Saint-Louis.
Il y a une subtilité, c'est ça. On l'appelle aéroport de Bâle-Mulhouse. Il se trouve sur le territoire de la commune de Saint-Louis. C'est un aéroport qui est international, qui a un statut international.
Binational, voire trinational.
Gilles, vous vous intéressez, pas seulement aux avions, que vous voyez tous les jours, mais vous vous intéressez aussi aux oiseaux.
J'ai installé des nichoirs et j'aime bien les observer.
Est-ce qu'ils viennent tous les ans dans le nichoir ?
Malheureusement, non. Les mésanges, c'est assez facile. J'ai aussi des rouges-queues, mais c'est plus compliqué.
Ouais. Donc c'est un peu aléatoire.
Oui.
Laetitia Huttmann, Gilles Clarin, nous commençons le jeu maintenant, mais les présentations sont toujours intéressantes. Voici les questions. Première question bleue d'aujourd'hui, une question de Marie-Vonne Sader qui habite Paris 15e. Combien de temps exprimé en minutes et à 30 secondes près, vous demande Marie-Vonne, combien de temps faut-il à la lumière du soleil pour atteindre la Terre ? Autant de réponses que vous le voulez en 30 secondes. Combien de temps faut-il à la lumière du soleil pour atteindre la Terre en minutes ?
8, il me semble.
8 minutes, exactement. 8 minutes et 20 secondes environ. Bravo. Question bleue aussi de Delphine Glinievitch à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Pour quelle exposition universelle ont été construits le Grand Palais et le Petit Palais à Paris ? Quelle année ? Pour quelle exposition universelle donc ?
1900.
Pour l'exposition universelle de 1900, Grand Palais, Petit Palais. Question bleue également de Denis Cros ou Cross de Montet et Bouxal dans le Lot. Alors c'est une question très ouverte, même si vous n'avez pas la réponse, vous pourrez tâtonner et peut-être la trouver. Quelle est la particularité historique de la ligne de chemin de fer à vapeur Bruxelles-Malines ? Donc en Belgique, quelle est la particularité historique de cette ligne de train à vapeur, donc à l'époque Bruxelles-Malines, ou Mechelen, si on parle néerlandais. Proposez des réponses, allez-y, je vous dirai si c'est bon.
La première ligne à vapeur ?
La première ligne...
Belge.
En Belgique ?
Pas la première ligne en Belgique.
La première ligne de chemin de fer du continent européen ?
Première ligne de chemin de fer du continent européen à avoir été inaugurée. 22 kilomètres, inauguré le 5 mai 1835 en gare de Bruxelles par le roi Léopold Ier. Départ du premier train à locomotive à vapeur, évidemment, à cette époque, du continent européen, cette ligne Bruxelles-Mechelen ou Bruxelles-Malines. Question blanche de Claude Nourry à Auzouer-en-Touraine, dans l'Indre-et-Loire. Dès le XIe siècle, quel nom a-t-on donné au traité signé entre l'Église et un État pour régler les rapports entre eux ? Ah, c'est assez amusant que cette question soit tirée au sort ici en Alsace, parce qu'on connaît bien ce terme.
Le concordat ?
Un concordat, c'est le mot qu'il fallait trouver. Exemple en Alsace-Moselle, concordat toujours en vigueur. Le concordat, traité signé entre l'Église et un État pour régler les rapports entre eux, de façon générale. Question blanche aussi de Willy Marcoux de Corba dans la métropole de Lyon, et c'est une question qui a été envoyée sur franceinter.fr. En Italie, parmi les îles éoliennes, ou les îles éoliennes, car je sais que vous aimez bien que je fasse les liaisons, et moi aussi j'aime bien faire les liaisons, même si parfois je l'oublie, laquelle abrite un célèbre volcan en activité du même nom ? En Italie, parmi les îles éoliennes, laquelle de ces îles abrite un célèbre volcan en activité du même nom ?
Le Stromboli.
L'île de Stromboli et le volcan le Stromboli. Laetitia Hotman et Gilles Clarin sont avec nous et ils vont répondre à cette question rouge de Bernard Ouayot à 800. 800, c'est une commune qui se trouve dans le Pas-de-Calais, sur la côte d'Opale. Que désigne le terme zytologie ? Zytologie, ça s'écrit Z-Y-T-H-O-L-O-G-I-E.
L'étude de la bière.
Bravo, ils savent tout sur tout, j'ai l'impression, nos candidats d'aujourd'hui. La zytologie, c'est l'équivalent de la biérologie, si on veut. En grec, zytos, c'est la bière. Zytologie, science de la dégustation de la bière, science des techniques brassicoles et de leur histoire. C'est d'ailleurs, je crois, le dernier mot des noms communs du dictionnaire. Laetitia Hotman, Gilles Clarin, vous avez répondu à toutes les questions. Voulez-vous tenter le à Mauche, dans le Haut-Rhin. Banco ou pas aujourd'hui ?
On est là pour jouer.
Banco.
Banco avec joie, d'accord. Cette question qui peut vous rapporter 500 euros.
Le jeu des 1000 euros. Sur France Inter.
Madeleine Dupuis habite les Rosiers-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire, et elle nous a envoyé cette question sur franceinter.fr. Vous pouvez chercher les pages en ligne pour nous poser des questions très facilement sur un moteur de recherche. Vous tapez « question jeu des 1000 euros » et vous arrivez directement, c'est la première occurrence, vous arrivez directement sur la page dédiée. Quelle est l'orthographe ? Et évidemment, puisque c'est un banco, vous n'avez droit qu'à une réponse, mais à une concertation tout à fait libre entre vous avant, en une minute maximum. Quelle est l'orthographe du mot tachycardie ? Sans erreur.
Je pense que je l'ai, là. Je pense que je l'ai, oui. T-A-C-H-Y-C-A-R-D-I-E.
C-A-R-D-I-E, non ? Il n'y a pas de pièce, je pense pas.
Non, je pense pas, non. Je pense pas.
T-A-C-A-R-D-I-E.
Je pense que c'est ça.
La tachycardie, bien sûr, qui se traduit par un rythme cardiaque rapide. Mais comment écrit-on ce mot, tachycardie ?
J'y vais.
Laetitia et Gilles, vous avez discuté entre vous, on vous a entendu parce qu'on écoute un petit peu aux portes comme ça. Est-ce que vous voulez nous donner la réponse maintenant ? Oui ?
Oui.
Et qui prend la parole ? C'est Laetitia ? Attention, pas d'erreur, je vous écoute.
T-A-C-H-Y-C-A-R-D-I-E.
Bonne orthographe du mot tachycardie. T-A-C-H-Y. C'était la difficulté relative, mais il ne fallait pas se tromper. T-A-C-H-Y-C-A-R-D-I-E. Vous avez gagné le banco. Voulez-vous tenter cette folie qui consiste à tenter de doubler vos gains justement avec le...
Super.
Super banco. 1000 euros peut-être. Une question de Geneviève Perrault de Pouillé-les-Vignes dans le département du Doubs. Quel nom est donné à ce type d'embarcation à fond plat, emblématique du bassin d'Arcachon et qui date du XVIIe siècle, utilisé pour la pêche et l'ostréiculture ? Quel est le nom de ce type d'embarcation typique du bassin d'Arcachon ?
Tu sais pas ?
Je ne sais plus. Toi, tu l'as pas ?
Non, je pense pas, non. On va tenter quelque chose, non ?
Chalos.
Quoi ?
Chalos, non, ça te dit quelque chose, ça ?
Alors, honnêtement, non, mais j'y connais rien en bateau.
Non, moi, non.
Une barge.
Embarcation à fond plat, emblématique du bassin d'Arcachon, utilisée pour c'est la pêche ça. Et l'ostréiculture.
Oh, merde. C'est pas Chalos, hein. Je crois, non, c'est pas ça. Un truc qui ressemble, mais je pense que c'est pas.
Voulez-vous, Laetitia et Gilles, nous proposer une réponse ?
Bah vas-y, hein. De toute façon, j'aurais pas mieux.
Non, mais c'est pas ça, je pense.
Essaye.
Non, mais c'est pas ça. Bah, non, j'ai pas ça.
Dites toujours.
Chalos.
Une chalos ?
Non, mais c'est pas ça.
Et c'est pas ça.
On s'en doutait un peu.
C'est une pinasse. Ah, ouais. Ouais, c'est la pinasse, le nom de ce bateau du bassin d'Arcachon, traditionnel.
Geneviève Perrault à Pouillé-les-Vignes dans le Doubs gagne 45 euros grâce à cette question super banco qui a piégé Laetitia Hautman et Gilles Clarin, qui repartent quand même avec le récepteur Radio France Inter, FM et DAB+, et avec le livre des chroniques musicales d'André Manoukian. 42 chroniques réunies dans ce livre, Les pouvoirs extraordinaires de la musique. Vous voyez, là aussi, j'ai fait la liaison. Les pouvoirs extraordinaires de la musique, coédition France Inter, HarperCollins. Bonne journée et à demain, si vous le voulez bien.
Je vous rappelle que des enregistrements du jeu sont prévus cette semaine. Vous avez rendez-vous jeudi, le 2 mai, à Ferrand-Ardenois, dans l'Aisne, vendredi à Auville, dans l'Eure, et samedi 4 mai à Bernières-sur-Mer, dans le Calvados.
LCL présente Angle Neuf, la filiale immobilière de LCL.
Devine où j'ai trouvé mon appart.
Bah, une agence immobilière, une petite annonce.
Eh non, en allant voir mon conseiller LCL. Avec Angle Neuf, LCL propose aussi de l'immobilier.
Avec Angle Neuf, la filiale immobilière de LCL, il est possible de trouver votre appart et son financement au même endroit. LCL, ma vie, ma ville, ma banque. LCL est élu service client de l'année 2024, catégorie banque de réseau pour les particuliers. Plus d'infos sur esda.fr. Prêt immobilier sous réserve d'acceptation de votre dossier par le prêteur LCL. Plus d'infos sur lcl.fr.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. France Inter, une radio, deux applis.
Sur l'application Radio France, tous les replays, tous les podcasts.
Sur l'application France Inter, le live, les vidéos, les messages et les notes vocales pour réagir en direct.
France Inter dans votre poche, deux applis gratuites dans votre téléphone. France Inter, c'est aussi sur les réseaux sociaux.
Sur TikTok, l'humour, l'info, la musique et plein de surprises.
Facebook, Twitter, Snap, Insta, Twitch, TikTok, abonnez-vous.
Merci d'écouter France Inter, 13h.